Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Le grand oral des grandes gueules.
Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports et l'invité des grandes gueules. Bonjour.
Bonjour à tous.
Décidément, à chaque fois que vous venez ici, le TGV de Johnny Blanc arrive en retard.
Et je vous assure que je n'y suis pour rien.
D'accord, bien.
Je me demande. Commande politique.
Peut-être qu'il y aura un peu plus de retard dans les trains à partir du mois d'août parce que il va falloir contrôler le pass sanitaire des voyageurs. Alors, on ne sait pas précisément à partir de quand puisque le projet de loi est encore en discussion à l'Assemblée nationale, en débat. Comment concrètement ça va se passer en fait?
D'abord, le principe, c'est que nous posons l'exigence du pass sanitaire dans les transports à compter effectivement d'une date qu'on ne connaît pas encore, mais qui va être entre le 5 et le 15 août probablement, pour à la fois préserver les déplacements pendant l'été, et ils vont être nombreux. D'ailleurs, les réservations à la SNCF sont plutôt au niveau qui approche celui de 2019, et puis inciter à la vaccination. Et de ce point de vue-là, les choses avancent bien, puisque le calendrier vaccinal, en tout cas, les avancées dans la vaccination sont importantes. Comment ça va se passer? D'abord, ça concerne essentiellement les avions longs, les vols intérieurs et les trains longue distance, donc les TGV, y compris ceux de Monsieur Blanc, les intercités et les trains de nuit. Et donc, il y aura, à compter de la mi-août, l'exigence de présenter un pass sanitaire, c'est-à-dire une preuve de vaccination ou une preuve de test. Et il y aura essentiellement des contrôles à l'approche du quai. On a l'habitude, parce qu'on a déjà réalisé ces contrôles, notamment avec l'attestation depuis maintenant de nombreux mois, en tout cas quand c'était à l'œuvre. Il pourra y avoir des contrôles à bord des trains.
Et mais puis, des contrôles à chaque fois ou des contrôles aléatoires?
On va organiser des contrôles qui seront à la fois massifs au départ, notamment dans les grandes gares, parce que c'est là où on a l'espace, c'est là où on a d'ailleurs souvent des portiques déjà qui sont mis en place, et des personnels qui sont habitués, habilités à le faire. Et il y aura aussi des contrôles à bord des trains, de façon plus aléatoire, et puis il y aura éventuellement des contrôles à l'arrivée. Donc il y aura tout un continuum de contrôles, et nous comptons évidemment, et cela a toujours été très respecté, sur la responsabilité et l'adhésion collective. Je le redis, quand on a imposé le port du masque en mai 2020, on a eu 95% des personnes qui ont porté tout de suite
correctement le masque. Pourquoi ne pas contrôler au moment de l'achat du billet? C'est-à-dire, je peux acheter mon billet uniquement si je me présente mon QR code?
C'est une bonne question. D'abord, on l'organise. Vous savez qu'Air France a mis en œuvre une application qui permet, au moment de l'édition de la carte d'embarquement, de télécharger vos documents, et vous avez comme ça, sur le billet, une mention ready to fly. Ça vous permet de couper un certain nombre de files d'attente. Donc ça, on est en train de l'organiser avec la SNCF. C'est déjà en cours, par exemple, avec Eurotunnel. J'étais hier matin à Douvres pour le vérifier. Et donc, on essaye, pour faire simple, de lier le pass sanitaire avec le billet, de manière à gagner du temps. Ça s'organise un peu sur le plan technique,
donc
technologique.
Ça sera pas prêt au mois
de... Ça va prendre quelques semaines, objectivement. Mais c'est en train de... C'est en cours d'expérimentation.
Pardon, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que vous êtes venu plusieurs fois pendant cette pandémie nous expliquer que dans les trains, il n'y avait pas de problème. Si on respectait les gestes barrières, c'était pas des clusters. Et puis là, on met en place un pass sanitaire. Est-ce que c'est pas contradictoire par rapport à tout ce que nous avez dit depuis le début? S'il n'y a pas de problème dans les trains, pourquoi mettre en place un pass sanitaire?
Le pass sanitaire, c'est préserver les libertés de circulation et c'est inciter à la vaccination. Pour la sécurité sanitaire dans les transports, c'est ce que vous connaissez par cœur, le gel hydroalcoolique, le fait de porter le masque, et de bien le porter, et il est encore une fois très bien porté, et ça ne change pas. L'ensemble du protocole sanitaire pour les transports et pendant l'été ne change pas.
Oui, mais on rajoute,
il faudra porter le masque.
On rajoute des contraintes là.
On rajoute la contrainte du pass, mais pour d'autres raisons, celle effectivement de préserver la liberté de circulation et d'inciter à la vaccination.
C'est bien, monsieur le ministre, parce que vous dites enfin que la vraie raison du pass sanitaire, moi, c'est-à-dire, ça me dérange pas, hein, parce que je suis double vaccinée, donc, mais vous dites enfin que la vraie raison du pass sanitaire, c'est en réalité inciter à la vaccination, et ça ne sert qu'à ça.
Nous
sommes d'accord.
Ça sert à ça, pour la bonne raison que la vaccination.
C'est plus de l'incitation à la vaccination que du sanitaire.
Moi, j'assume complètement l'objectif politique du pass sanitaire. Il est double, je l'ai dit. Préserver le déplacement des Français, inciter à la vaccination. Et pourquoi on incite à la vaccination? C'est parce que, et c'est assez largement démontré par les éléments scientifiques dont nous disposons, c'est que la vaccination, d'abord, permet de prémunir ceux qui sont vaccinés des formes graves du Covid. Et par ailleurs, ce qu'on cherche à faire collectivement, c'est de sortir de cette crise sanitaire qui nous éprouve depuis maintenant plus d'un an et demi. Et que seule la vaccination nous permettra d'atteindre
cette immunité collective. D'accord, alors logique, rendez la vaccination obligatoire. D'ailleurs, certains députés de l'opposition l'ont mis en débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça manque pas un peu de courage politique, finalement?
Bon, d'abord, la vaccination, elle est rendue obligatoire pour les soignants.
Oui, mais pour tous les adultes, au moins, puisque vous dites la seule façon de s'en sortir, c'est le vaccin.
Moi, j'observe qu'en posant les principes d'une incitation forte, vous avez eu, dès le soir de l'annonce du président de la République, 7 millions de Français qui étaient retardataires ou indécis, qui ont décidé de choisir de prendre rendez-vous.
Oui, mais on sera pas
90%. Ça marche.
Oui, mais on sera pas 90%. Il faudrait être à 90%.
Si on vise 50 millions de personnes primo-vaccinées, en tout cas avec une première dose, d'ici quelques semaines, c'est quand même une part non négligeable de la population, et nous pensons que nous pouvons y arriver.
Là où vous allez avoir un problème, c'est quid du personnel en fait de la SNCF, c'est-à-dire ils vont contrôler, personnel navigant et personnel de la SNCF. Est-ce que qu'est-ce que vous allez faire pour ceux qui veulent pas se faire vacciner
Plusieurs choses. D'abord, ces personnels, et c'est notamment le cas des personnels navigants, ont été prioritaires à la vaccination parce qu'ils étaient exposés notamment à des destinations dans des zones dans lesquelles les circulations du virus et des variants. Là, le régime va être simple, c'est que toutes les personnes qui sont exposées à la clientèle, pour le dire simplement, vont devoir avoir le pass sanitaire.
Ça fait même combien de personnes ?
Les usagers, ça fait un nombre important de personnes. Pour vous donner l'exemple, donc les trains longue distance, pour ne prendre que ça, TGV, Intercité et train de nuit, c'est 400 000 personnes par jour. Entre 400 000 et 500 000 personnes par jour. Donc c'est massif. Ça renvoie aussi au sujet que vous évoquiez sur le contrôle. C'est beaucoup de personnes à contrôler.
Oui, mais là, on parle du personnel.
Et les personnels de la SNCF, c'est beaucoup moins, parce que si vous prenez...
C'est quoi? C'est les contrôleurs?
Les conducteurs, certains conducteurs, parce que tous ne sont pas tout le temps en contact, mais une partie des conducteurs, les contrôleurs, les personnels d'accueil, et de la même façon, dans les aéroports, ceux qui sont les plus en proximité des passagers, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais pas de 500 et plusieurs dizaines de milliers de personnes, une fois, en quelque sorte. Pas 500 000
ces gens-là devront être vaccinés.
Ces gens-là doivent avoir le pass sanitaire, donc soit le vaccin, soit le test.
Enfin, ils vont pas tester tous les jours pour aller travailler.
Beaucoup sont déjà vaccinés.
Oui, beaucoup. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on sait quand même comment fonctionne la SNCF au niveau des syndicats et compagnie. J'ai du mal à croire que si on applique à la SNCF ce qu'on veut nous faire appliquer dans nos restaurants, à savoir licencier la personne au bout de 2 mois de suspension si elle ne veut pas se faire vacciner.
Avec un statut très protecteur.
À comprendre comment on va virer les gens de la SNCF. Faut juste m'expliquer parce que.
L'objectif, c'est pas de virer les gens de la SNCF.
C'est prévu quand même.
Quid d'Éric Alsine?
Il n'y a pas d'obligation.
Moi, dans le restaurant, je dois virer mon salarié, et à la SNCF, lui pourra rester, on le mettra ailleurs ou je sais pas quoi.
Mais l'exigence que nous avons, c'est que les salariés, les agents de la SNCF, qui sont en contact avec les clients, disposent du pass sanitaire. Donc soit vaccinés, soit testés.
D'accord.
Et donc et j'ai demandé au patron de la SNCF à plusieurs reprises, j'ai reçu les syndicats dans d'autres circonstances il y a quelques semaines sur différents sujets, et il n'y a pas d'opposition des agents de la SNCF à démontrer la détention du passé.
Il y en aura forcément, parce qu'il y a des anti-vax. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans nos entreprises privées, on nous dit clairement il faudra les licencier, parce que vous n'aurez pas d'autre solution. Je veux savoir ce qui va se passer à la SNCF pour tous les
réglages. De la même façon, vous êtes pilote Air France. Vous devez disposer du pass sanitaire pour prendre en compte votre vol. Vous arrivez le matin à la cité du personnel navigant d'Air France, vous ne voulez pas, vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'entrez pas. Et après, vous irez vous expliquer sur vos raisons, et le même principe s'appliquera pour l'ensemble des personnels de transport qui sont...
Voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Il y a une règle qui est homogène pour tout le monde, l'objectif...
Mais on sait très bien que virer quelqu'un de la SNCF, c'est quand même quelque chose de très compliqué aujourd'hui. C'est pas la même chose que dans le privé. Donc encore une fois, deux poids, deux mesures.
Écoutez, moi je connais très bien les syndicats de la SNCF, je les pratique sur différents sujets, ils sont très protecteurs de leurs intérêts sociaux, et probablement que c'est légitime pour partie, je n'ai pas vu sur ces sujets de pass sanitaire d'opposition de principe et majoritaire au pass sanitaire.
Ça se passera bien. Elina Dumont.
Oui, alors monsieur Djebari, c'est bien ça?
C'est moi.
Par contre, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Parce qu'en fait, j'entends. Je deviens sourde, c'est pas possible.
Oui, mais il y a toi qui l'entends pas.
Non, mais j'entends, Elina. Mais il faut tendre l'oreille.
Ok, je fais l'effort.
Alors voilà, moi, la question que je voulais vous poser, parce que j'ai lu de nombreux articles, et concernant les trajets longs. Vous dites, le pass sanitaire sera obligatoire principalement pour les trajets longs. Vous savez que Paris-Le Mans, par exemple, c'est 58 minutes. Paris-Lyon, c'est 2 heures. Paris-Lille, c'est 1 heure. Et moi, vous savez ce que je crains le plus par rapport au Covid, et moi, franchement, en plus, je travaille auprès des sans-abri, c'est les transports. Parce que dans les transports, même j'ai écrit à la RATP il n'y a pas longtemps parce qu'ils m'ont énervé. Non, mais je vous jure... entre les sans-abri qui sont dans des états monstrueux, pas de masque, qui parlent tout fort, qui crachent, des sièges tout dégueulasses.
C'est plutôt dans le métro, alors, dans ce
non,
cas.
Non, j'ai dit quoi?
Non, mais c'est plutôt
j'ai
dans le métro.
Vous parlez dans le métro, j'ai
mais
dit
qui
quoi?
Qui échappe au pass sanitaire.
Non, non, je voulais dire le métro, excusez-moi.
Oui. Non, vous avez dit RATP.
Je comprends pas qu'on ne fasse rien, parce que je peux vous assurer que moi, je connais des gens en banlieue. Tous les matins, ils font une heure et demie de transport pour aller travailler
ça,
à la Défense.
C'est vrai, parce que la distinction, comment on fait la distinction entre le trajet long et un trajet du quotidien aussi?
On fait alors d'abord, c'est un vrai sujet. On a le trajet long, on a dit que c'était les TGV, les intercités, les trains de nuit. En général, les trains à réservation obligatoire. Je vous l'ai dit, ça représente 400 000 personnes par jour.
Donc mais déjà, pour c'est... aller au Mans, il faut réserver. Ouais. Hein, moi,
et on l'a dit,
ça sera TGV, c'est un TGV. C'est bon, ça, c'est concerné.
Donc vous allez au Mans, et y compris, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire, mais y compris dans ces trajets longue distance, vous avez des personnes qui prennent le TGV pour travailler.
Oui, oui. Tout à fait.
Entre 15 et 20% de personnes, il y aura passe sanitaire. En revanche, là, c'est aussi l'objet d'être crédible sur le plan du contrôle. C'est déjà ambitieux de contrôler 400 000 personnes par jour. Quand on parle, ne serait-ce que de la plaque parisienne, c'est plusieurs millions de personnes par jour. Et comme j'assume complètement que le pass sanitaire, ça vise à inciter à la vaccination, mais c'est pas un élément complémentaire de sécurité sanitaire dans les transports, et que par ailleurs, l'incitation à la vaccination et le pass sanitaire est exigé dans d'autres compartiments de la vie sociale, vous voyez bien que dans les transports du quotidien, l'objectif recherché n'est pas celui-là. Le protocole sanitaire à la RATP, dans le métro, dans les bus, dans les trains, il fonctionne depuis mai 2020 maintenant, même mars, mais en tout cas depuis le premier déconfinement de mai 2020, et il fonctionne correctement.
Pas dans les métros, je peux vous assurer.
On a les chiffres, enfin on pourra comparer les chiffres, mais...
Écoutez, moi je vois...
Sincèrement, pour l'instant...
Notamment les populations
les gens,
fragiles.
J'ai crié à la RATP, les gens, ils ne se lavent plus les mains pendant les wagons. Ils enlèvent leur masque. Par contre, dès qu'il y a les couloirs, parce qu'il y a la sécurité, là, ils remettent leur masque. Et en plus,
il
y a toute la misère qui dit, pardon, monsieur. Non, mais c'est une cata, monsieur.
Il y a quand même un relâchement.
Il y a un relâchement, voilà, Olivier.
Nous, on a encore refait des tests récemment sur, par exemple, le respect du port du masque, qu'on a réussi à compter. Si on se dit les choses de façon très simple, le respect le port du masque, il est bien porté dans Paris intramuros, si on prend par exemple le cas du métro, il est bien porté la journée, un peu moins le soir, il est plutôt bien porté dans Paris intramuros, un peu moins quand on s'éloigne du centre de Paris. Donc il y a un effort encore à faire, et je dis pas que tout est parfait, mais je dis que très majoritairement, et je nommais pas le sujet des personnes vulnérables que vous avez citées, qui d'ailleurs est un sujet qui dépasse très largement le sujet Covid. Ces personnes sont vulnérables tout le temps. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi.
Ils sont très malades et ils peuvent nous renvoyer. En plus, je travaille pour eux, donc
bien sûr.
Je parle pour eux. Hein.
Alors, mais je le dis encore une fois, très majoritairement, dans les transports en commun et singulièrement en Île-de-France, le protocole sanitaire est plutôt majoritairement respecté.
Marianne Soubry.
Monsieur le ministre, j'ai eu plusieurs fois le témoignage, et c'est malheureux de le dire, mais des gens proches qui m'ont bien confirmé l'affaire, c'est que, en fait, on rentre en France quasiment sans aucun contrôle aujourd'hui dans les aéroports. Ceux qui font des contrôles éventuellement, c'est les compagnies aériennes avant que vous montiez dans l'avion. Et après, alors, ils contrôlent comme ça des bouts de papier et on sait qu'il y a des faux. Et vous arrivez en France et il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Et on nous a beaucoup dit, comme encore aujourd'hui dans le projet de loi, on nous dit aussi que les personnes qui seront positives devront, trouvées positives au Covid, devront être à l'isolement. Mais là, ça fait des 20 000 personnes par jour, on ne pourra pas contrôler ça. Concrètement, est-ce qu'il y a vraiment un contrôle à l'arrivée en France?
Mais concrètement,
un vrai contrôle sur aussi les personnes positives.
C'est de le faire simplement, mais il y a trois catégories de pays. Il y a les pays rouges, avec des volumes de passagers très faibles et des contrôles très forts. Motif impérieux très strict, contrôle systématique à l'arrivée et isolement des personnes qui seraient effectivement testées positives à l'arrivée. Ça, c'est des pays rouges. Il y a beaucoup de pays rouges aujourd'hui, hein, la Russie, l'Amérique latine, etc. Ensuite, il y a les pays oranges, les motifs impérieux, le Royaume-Uni et d'autres pays sur lesquels vous avez la vérification à l'embarquement. Parfois, il y a des contrôles complémentaires, mais c'est à l'embarquement et on fait peser le contrôle sur les exploitants, les compagnies aériennes, les opérateurs maritimes. Mais c'est conçu comme ça.
Oui, mais moi, j'ai peur
vous
parce
n'embarquez
que je préfère
pas.
Que la France assure ma sécurité plutôt que de demander à une compagnie aérienne dans un autre pays de vérifier. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, ça veut dire que vous voudriez contrôler tout le monde systématiquement.
Bah oui.
Mais le principe du contrôle, c'est comme si vous m'aviez dit qu'à l'époque, il fallait contrôler toutes les personnes chaque jour en France quand on était confiné. D'abord, c'est possiblement pas possible sur le point d'évolution.
C'est facile quand même de contrôler tous les gens qui descendent d'un avion. Enfin, quand même.
Non, c'est pas facile parce qu'en fait, il y a énormément de gens, ça fait énormément de queues. Et puis par ailleurs, vous savez très bien qu'on a catégorisé des pays. C'est la raison pour laquelle on a fait des catégories de pays, c'est justement pour essayer de cibler et de faire porter les contrôles sur les pays dans lesquels il y a le plus de risques sanitaires.
Quand c'est des vols directs, quand ce sont des vols,
mais même pas dans direct, les pays verts,
c'est plus compliqué.
Alors, on vérifie aussi les correspondances. On a fait des contrôles d'autocorrespondance. Les gens qui achetaient des billets, typiquement, qui faisaient, je sais pas, Costa Rica, le Portugal, Portugal-France, on a détecté des autocorrespondances. Et même en Europe, qui sont majoritairement des pays verts, même en Europe, on vérifie. Mais c'est pas vrai. Enfin, moi, nous, on vérifie chaque cas. Et je dis pas que si vous cherchez des cas individuels qui contournent, qui fraudent, vous en trouverez toujours. Mais même sur le transport terrestre, même en Espagne, il y a trois semaines, on avait refusé sur l'ensemble de la semaine 600 personnes. Ils tentaient de rentrer par la route sans test. Et aujourd'hui, même en Europe, quand vous revenez de Chypre, de Grèce, d'Espagne, du Portugal, vous devez produire un test si vous êtes non vacciné. Pourtant, ce sont des pays verts. Donc, il y a des tests. Il y a une catégorisation des pays qui est très précise, mise à jour chaque semaine. Il y a des tests. Et à chaque fois qu'on a une alerte de ce type, et j'en reçois pareil tous les jours, on vérifie. Et quand les compagnies aériennes, par exemple, ne respectent pas, on les met en demeure, on les sanctionne, on les suspend parfois. On avait suspendu Ethiopian Airlines pendant 3 jours il y a quelques mois maintenant. Donc, on suspend, on fait le maximum de contrôle. Après, vous trouverez toujours des cas individuels qui contournent.
C'est... Je pense que c'est plus intelligent de contrôler à l'embarquement qu'au débarquement. Le but, c'est pas que quelqu'un de contaminé et contaminant reste dans l'avion pendant 15 heures avec quelqu'un dans l'avion, contamine la moitié de l'avion.
Je préfère que mon pays, je préfère que la France assure le contrôle dans ses aéroports.
Si t'as passé 10 heures,
parce que dans ce cas-là, tu les refuses.
Si t'as passé 10 heures à côté de quelqu'un dans l'avion qui est contaminant, je vais te dire un truc, c'est trop tard, même si on l'arrête.
Mais par ailleurs, on fait beaucoup de contrôles. Enfin, si vous avez fait l'expérience, mais quand vous avez d'un pays rouge, par exemple, vous avez à la fois le contrôle au départ, vous avez le test systématique à l'arrivée, vous avez la protection civile qui contrôle vos différents documents. Vous avez la PAF, la police aux frontières, qui contrôle votre motif impérieux, qui, cas échéant, émet un avis d'isolement, en tout cas un arrêté d'isolement. Donc, c'est fait de façon extrêmement précise. Enfin, il faut aller voir les choses sur site.
Monsieur Djebari, je regarde la liste des ministres qui auraient été ciblés par les services secrets marocains, parce que c'est les ministres du gouvernement Philippe, et vous étiez déjà dans ce gouvernement. Vous n'avez pas été ciblé ? Vous êtes un peu déçu de ne pas être dans l'affaire Pegasus ?
Ils m'ont visiblement oublié. Non, écoutez, moi je...
Non, mais est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette affaire ? Je vois qu'il y a un conseil de défense qui
a eu un procès ce matin au président de la République. Il faut évidemment prendre cette affaire au sérieux. Il faut faire le jour... En tout cas, il faut faire la clarté sur ce qu'est cette liste, sur ce que veut dire d'être sur cette liste en termes de pénétration effective de vos dispositifs téléphoniques. Enfin, bon, tout ça se regarde de façon extrêmement précise et à tête reposée en quelque sorte. Et après, si ce sujet...
Votre portable est sécurisé ? Est-ce que vous le faites checker régulièrement ?
Et la réponse est oui. On fait checker nos ministères, on fait vérifier nos portables, on fait par ailleurs attention. Vous savez, moi, je pense que... Enfin, moi, ça fait très longtemps, et même hors de la politique, que je pense qu'il faut être paranoïaque de façon un peu préventive, vous voyez, et penser que tout ce que vous écrivez, ce que vous dites au téléphone et ailleurs peut être entendu ou lu. Singulièrement, quand vous êtes responsable politique, vous faites un peu attention. Et malheureusement, les technologies, elles existent, elles peuvent être utilisées à des fins qui sont
hostiles. Est-ce que le portable du président
est
vraiment protégé ? Parce que visiblement, c'est un numéro de téléphone facile à avoir. Alors, c'est un de ses portables et c'est ce portable-là qui aurait été ciblé.
Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail des dispositifs de sécurité autour du président de la République qui existent.
Mais il n'y a pas à sécuriser davantage.
J'ai une question, mais rien à voir avec le Covid.
Ah bon, d'accord.
Pardon, incroyable, Elina. Mais vrai, parce que quand je vais au Grand Gueule, j'achète toujours le Parisien. Et là, j'ai vu... Alors déjà que je trouve que le Navigo, il coûte très cher... Et là, je viens de voir qu'il va augmenter si le gouvernement n'apporte pas 1,3 milliard d'euros pour les transports. Moi, ça me fait peur.
Vous relayez l'argumentaire de Mme Pécresse.
Je sais pas, mais incroyable, mais vrai, je tombe dessus.
La région Île-de-France est elle qui gère le Navigo, mais elle estime qu'elle a perdu de l'argent avec la pandémie. Elle demande l'aide de l'État.
Je fais la chose simplement. En fait, avec le Covid, vous avez 30% des voyageurs en moins.
Ouais.
Donc, il manque en gros 1 milliard par an à la région pour pour équilibrer son budget. Et donc, nous avons à chaque fois soutenu les différentes régions et singulièrement la région. Et effectivement, la conséquence, pour faire simple, il faut qu'on trouve l'équilibre budgétaire d'ici à la fin de l'année. Et nous avons à discuter avec Mme Pécresse pour savoir comment on équilibre les comptes, pour faire simple.
Parce que le Navigo, il coûte cher déjà.
C'est terminé. Merci, M. Djebari.